Tout le monde, c'est toujours un privilège d'être avec vous. Ce matin, on sera dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, en Pierre. Pardon. Oh là là, merci. Je sais pas. Chapitre 5. En Pierre, chapitre 5. À quoi est-ce que vous pensez quand vous attendez l'expression le combat spirituel? Le combat spirituel. On pense tout de suite aux démons, peut-être, aux exorcismes. Peut-être à quelqu'un qui reprend un esprit mauvais, qui s'adresse directement à Satan, je ne sais pas. On imagine des épées qui se croisent, une armée invisible. Mais bien souvent, le combat spirituel est beaucoup plus banal que ça. Imaginez la scène juste après l'arrestation de Jésus. Pierre est assis dehors, il se chauffe les mains près du feu. Quand une jeune servante le questionne sur le lien, sur son lien avec Jésus, qu'est-ce qui se bouscule dans sa tête, dans sa tête à ce moment-là? Cette soirée sera tellement plus simple si je dis non, je ne le connais pas. Ma vie sera tellement plus simple si je prends juste un peu de distance avec ce Jésus. Ces pensées ne sont pas si différentes que des nôtres de temps en temps. Aujourd'hui, au 21e siècle. Quand un collègue nous demande ce qu'on fait le dimanche, ce qu'on pense de tel ou tel sujet de société, là, on doit lutter avec nos allégeances. Et ça, tout comme les pensées de Pierre au moment de l'arrestation de Jésus, c'est du combat spirituel. Et Jésus le dit explicitement, en Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 31, en fait, Jésus dit, « Simon, Simon, c'est-à-dire Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromet. » C'est-à-dire Satan vous mettre en pièces, Satan vous détruire. Ou dans le vocabulaire de notre chapitre, chapitre 5 de Empire, Satan vous dévorer. Satan vous dévorer. Mais ensuite Jésus ajoute, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Affermis tes frères. C'est-à-dire qu'il voit d'avance la trahison de Pierre. Et il voit aussi la repentance de Pierre. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Notre texte ce matin, en Pierre, chapitre 5. Et ici, dans En Pierre, on trouve Pierre en train de faire exactement ce que Jésus lui avait dit de faire en Luc 22. Il écrit pour affermir les frères et les sœurs. Et c'est nous, en fait. C'est nous aussi. Ces croyants-là, à l'époque, où Pierre a rédigé cette lettre, il y avait du pas de la persécution officielle, celle de l'État, pas encore, mais il y avait quand même une persécution sociale, le mépris, les moqueries, la dérision, À la fin du chapitre, Pierre résume, d'une certaine manière, tout le livre au verset 12 du chapitre 5. Il écrit « Je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Il exhorte, il atteste. Et dans tout ça, dans l'assemble de l'épître, on trouve la grâce de Dieu, cette grâce à laquelle nous sommes attachés, cette grâce dans laquelle nous pouvons tenir ferme. Le passage qu'on regarde ce matin en Pierre chapitre 5 est un passage sur le combat spirituel. Mais l'arme principale que Pierre nous met entre les mains, c'est peut-être pas celle que vous imaginez. On y viendra dans un petit moment. L'image qui se trouve au cœur de ce passage est bien connue. C'est verset 8. Satan comme un lion, à la recherche de quelqu'un à dévorer. Pendant longtemps, moi, j'ai vu cette image comme juste une simple image de la tentation de Satan. Mais si on lit ce passage dans le contexte plus large de l'épître, et même juste le chapitre, on voit que le lion qui rôde et qui attaque ici en le chapitre est directement lié à la souffrance et à la persécution. Nous, comme les premiers lecteurs de Pierre, on est parfois tentés de tout laisser tomber quand on rencontre moquerie et le mépris. Quand on rencontre l'hostilité d'une société sécurisée, et ça c'est ce que Pierre a voulu dire comme être dévoré. Est-ce que ce ne serait pas plus simple si je cédais, si j'arrêtais de parler de Jésus, si j'arrêtais de vivre selon ses enseignements, si je rentrais un peu plus dans le moule? Est-ce que la vie ne serait pas plus facile? Mais Pierre ne commence pas par le lion dans le chapitre 5. Il commence le chapitre en parlant des brebis et des bergers. Il commence le chapitre en parlant de notre responsabilité les uns envers les autres. Parce que voilà, une brebis seule au milieu d'un champ n'a aucune chance face au lion. Son seul espoir, c'est le troupeau avec des bergers qui prennent soin des brebis, qui se battent pour les brebis, qui les conduisent, qui les nourrissent avec humilité. Lisons ensemble en Pierre chapitre 5, versets 1 à 4, pour commencer. En Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pèsez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraître, vous obtiendrez le couronne incorruptible de la gloire. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous enseigne. Enseigne-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Pierre s'adresse aux anciens, aux responsables de l'Église, et il leur donne trois exhortations sur la manière dont un responsable chrétien doit conduire l'Église. Et chacun de ces choses a un côté négatif et un côté positif. Non par contrainte, mais volontairement. Non par un gain sordide, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui leur sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. On n'a pas le temps de développer chacun de ces détails en profondeur, mais il est important que vous le compreniez. Vous allez peut-être me demander pourquoi, parce que la grande majorité entre vous dans cette salle, dans cette église, ne sera jamais ancien ou pasteur. Alors pourquoi avez-vous besoin de comprendre ces exhortations, ces qualifications pour un ancien, pour un pasteur? Trois choses me viennent tout de suite à l'esprit. D'abord, dans l'Église du Nouveau Testament, c'est l'Église qui choisit ses responsables. C'est l'Église qui choisit ses responsables. C'est une particularité baptiste, mais je crois que ça découle assez naturellement de ce que le Nouveau Testament enseigne. Donc, si c'est l'Assemblée qui choisit ses responsables, qui vote pour dire si oui ou non un homme devient ancien dans l'Église, alors l'Assemblée doit comprendre ce qui qualifie un homme pour cette position, n'est-ce pas? Est-ce que celui qui voudrait être ancien correspond à la manière dont Pierre est décrit un ancien dans ce passage? Est-ce qu'il mène une vie exemplaire dans cette tendance, sans cette tendance à dominer, par exemple? Est-ce qu'il veut être ancien? Non pas contrainte, mais avec un vrai désir de le faire. Est-ce qu'il est cupide? Est-ce qu'il fait simplement pour l'argent? Ce sont des questions qu'on doit demander chaque fois, parce que c'est important. Voilà la première raison pour laquelle c'est important pour une assemblée de comprendre ces choses. Mais ensuite, c'est une image de leadership de manière générale aussi. Ces caractéristiques ne sont pas qu'un exemple de la manière dont Dieu comprend et présente l'autorité. Le portrait que Pierre est en train de prendre, c'est celui dont responsable d'une église, a quelque chose à dire sur votre manière de diriger au travail, avec votre famille, vos enfants. Troisièmement, Dieu se soucie de qui vous conduit. Dieu se soucie de qui vous conduit. C'est important que vous comprendrez, compreniez que Dieu se soucie de ça et la manière dont on vous conduit. Dieu est un Dieu qui prend soin de ses brebis, n'est-ce pas? Et il appelle des hommes à prendre soin de ses brebis. Et n'importe qui ne fera pas l'affaire. Dieu a mis en place des exigences très précises sur qui doit occuper cette position. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il prend soin de vous. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut quelqu'un qui vous aidera, qui se battra pour vous et qui reprendra vos besoins. Quelqu'un qui vous conduira par la parole de Dieu. Quelqu'un qui aidera à vous protéger du lion. Au fur et à mesure qu'on avance dans ces versets, vous avez peut-être déjà commencé à remarquer que le type de responsable que Pierre décrit ici, c'est un responsable humble. Humble. Et même s'il n'a pas encore employé le mot « humilité », le concept est déjà bien présent. La direction qu'il décrit n'est pas tyrannique. Elle ne domine pas. Elle est exemplaire. C'est une autorité qui est elle-même, selon verset 4, sous une autorité. Ces anciens sont des bergers, sur un souverain berger. Ils ne travaillent pas pour les félicitations et les approbations des hommes, mais pour l'approbation de Dieu, cette couronne incorruptible de la gloire au verset 4. Vous avez remarqué comment Pierre se décrit lui-même au verset 1 de ce chapitre. C'est comment? Moi, ancien comme eux. Qui est Pierre? C'est qu'un ancien? Non, il est un apôtre, n'est-ce pas? Il s'appelle lui-même un apôtre au chapitre 1. Mais ici, il se présente comme un ancien parmi les anciens. Vous voyez, il pratique déjà ce qu'il prêche. Il se met au même niveau de ce qu'il écrit. Il s'abaisse. Il ne se gonfle pas. Il ne cherche pas à mettre en avant son statut ici dans ce passage. Au verset 5, Pierre tourne son attention aux jeunes de l'Église. Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Pourquoi il fait ça ici? Ce n'est pas peut-être évident tout de suite, mais c'est peut-être simplement parce que les jeunes dans l'Église sont ceux qui ont le plus tendance à l'insubordination, à la rébellion, dans le repas aux responsables de l'Église. Alors, il les nomme, il leur dit « soyez soumis », c'est-à-dire « soumettez-vous. » Être soumis, ça ne veut évidemment pas dire que les anciens ont sur vous une autorité qui domine, une autorité tyrannique, sans limite. Pierre vient justement de l'exclure. Mais ça veut dire ceci, que vous avez une disposition générale à suivre les décisions que les anciens ont prises en respectant l'autorité que Dieu leur a confiée. Voilà. Mais la deuxième moitié du verset 5, il élargit le cercle de ceux à qui il s'adresse. Il dit et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous, ça c'est volontaire, n'est-ce pas? Personne ne s'habille par accident, il faut le décider. Donc, ce n'est plus seulement les jeunes qui se soumettent aux anciens, mais d'une certaine manière, il va jusqu'à dire ici que tout le monde doit se soumettre à tout le monde. Cette idée de l'humilité est définie de manière très claire et très mémorable en Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, dont on parlait il n'y a pas longtemps. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. D'ailleurs, cette image de se revêtir est très parlante. Le verbe employé ici, c'est le verbe qu'on utilise pour un serviteur qui met son tablier, qui se prépare à servir, comme Jésus avec les disciples. Il prend un linge, il le noue autour de sa taille et il le lave les pieds. Et maintenant, juste après ça, on tombe sur ce petit mot de liaison, car, suivi d'une citation de Proverbe 3, verset 34. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pierre nous donne la raison. La raison. Être orgueilleux, c'est se mettre soi-même en position d'opposition à Dieu. Être humble, c'est se placer sur le chemin de la bénédiction de Dieu. Nous avons vu le qui de l'humilité. Le qui de l'humilité, c'est tout le monde. Tout le monde. Les anciens. Les jeunes. Et tout le monde entre les deux. Mais maintenant, Pierre nous donne le comment. Le comment de l'humilité. Versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et cherchez-vous sur lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On retrouve ici cette dynamique d'humiliation avant élévation. Le chemin vers le haut passe par le bas. Il nous appelle à l'humilité au sein de l'Église. Et personne n'échappe à cette humilité-là. C'est pour les jeunes, c'est même pour les anciens, c'est pour tous ceux qui sont entre les deux. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais Pierre continue la même phrase au verset 7. Regardez avec moi, verset 7. Malheureusement, certaines traductions en font deux idées séparées, et parfois même deux phrases séparées entre verset 6 et verset 7. Alors qu'en réalité, la grammaire est en train de nous dire comment le croyant s'humilie sous la puissante main de Dieu. Et le comment, c'est le verset 7. Okay? Vous pouvez le figurer comme ça. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, en vous déchargeant sur lui tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. C'est quelque chose... Il nous dit donc on doit s'humilier en déchargeant nos soucis, nos angoisses, nos inquiétudes sur lui. Et je pense que ça implique la prière, bien sûr, les lâcher, faire confiance à Dieu pour ces choses qui nous inquiètent, demander son aide pour nos problèmes, les déposer sur lui, lui demander de s'en occuper à notre place, reconnaître qu'on n'y arrive pas toute seule. C'est ça la foi. Et c'est quelque chose de considérable quand il réfléchit, quand on relie ces deux choses, comme Pierre le dit, comme Pierre le fait. Ça nous montre qu'il y a un lien réel entre l'orgueil et l'inquiétude. Vous le voyez? Que céder à l'inquiétude, s'accrocher à ses soucis, ses angoisses, ça peut en faire venir une forme d'orgueil devant Dieu. Comment? Quand on s'inquiète à l'excès, quand on refuse de remettre nos angoisses à Dieu, quand on retourne et retourne chaque peur dans notre tête sans jamais s'arrêter, ce qu'on est en train de dire à Dieu en réalité, c'est « Moi, je fais ça mieux que toi. Toi, tu ne maîtrises pas la situation. Il n'y a que moi qui puisse résoudre ce problème. » Thomas Schreiner écrit que l'inquiétude excessive révèle que le seul Dieu auquel une personne fait confiance, c'est elle-même. Elle est convaincue qu'elle doit résoudre tous ses problèmes par ses propres forces. Regardez avec moi les versets 8 à 9. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce virage que Pierre prend dans les versets suivants, versets 8 et 9, la résistance au diable, ce n'est peut-être pas un virage aussi serré qu'on pourrait le croire au premier abord. Parce que, vous voyez, l'humilité à laquelle il nous appelle, cette humilité qui se concrétise en déchargeant nos soucis sur Jésus, c'est justement ce qui prépare notre esprit, ce qui le dégage pour qu'il soit prêt pour la bataille contre l'ennemi. Au verset 8, « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. » Donc, il y a un lien entre le combat spirituel et l'humilité. Vous êtes peut-être en train de vous dire, je ne sais pas, Michael, le lien n'est pas si clair que ça, peut-être que Pierre change simplement de sujet. Alors, laissez-moi vous montrer encore une chose. Est-ce que vous savez quel est le seul autre endroit au Nouveau Testament où Proverbes 3, versets 34 est cité? C'est en Jacques. Jacques, chapitre 4. Allons-y ensemble. Jacques 4. On commence au verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et qu'est-ce qu'il dit au verset juste après? « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques fait exactement le même chemin ici. Exactement le même verset. Il part de l'humilité et il arrive à la résistance au diable. Donc, je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Cette sobriété, cette vigilance, ce n'est tout simplement pas possible si nos esprits sont encombrés d'orgueil, d'inquiétude, des peurs, de doutes. Si on se bat pour son statut, pour avoir raison, si on s'accroche orgueilleusement à tous ses désirs et tous ses soucis, une église faite de gens comme ça ne résistera pas aux tentations du diable. Elle ne tiendra pas ferme quand le diable viendra en réjouissant. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le combat spirituel, en tout cas celle que l'on voit dans ce passage, a l'air beaucoup plus banal que ce à quoi on a habitué. Il ne s'agit pas de reprendre Satan, il ne s'agit pas de chasser des démons, il s'agit de servir les uns les autres avec humilité et de décharger ses fardeaux sur Jésus. Pierre dit, résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est quelque chose d'actif, mais c'est quelque chose de collectif aussi. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Voilà pourquoi la première partie de ce passage, c'est si important. La brebis isolée est la première à être dévorée. Mais une église en bonne santé, avec des responsables qui font paître le troupeau, qui en prennent soin, qui servent en se sacrifiant, avec des membres humbles qui se soumettent les uns les autres, qui se soumettent aux anciens. Une église comme ça peut tenir ferme face aux tentations de Satan, au milieu de la souffrance, au milieu de la persécution même dans ce monde. Qui était avec Pierre au moment où il a renié Jésus? Un des disciples, peut-être Jean, était dans les parages, mais probablement pas juste à côté de lui. De manière générale, tous les disciples s'étaient dispersés. Jésus l'avait dit, « Voici l'heure vient où elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun à son côté. » Autrement dit, Pierre était seul quand Satan est venu criblé comme le blé. Les disciples s'étaient dispersés. Pierre était une brebis isolée. On l'interrogeait et il ressentait exactement la même pression que les lecteurs de sa première épître. Exactement la même pression que certains d'entre vous ressentez peut-être maintenant. Cette semaine au travail, dans le voisinage. Finalement, Pierre est tombé. Mais il s'est relevé. Il est revenu à Jésus. Et il est parti affermir les frères et les sœurs, exactement comme Jésus l'avait demandé. Revenons à notre texte, au verset 10. Pierre attire notre attention sur la récompense. Parce que oui, il y a des épreuves, des tentations, des souffrances, mais il y a aussi des promesses, des promesses de Dieu. Il y a une récompense. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ces quatre verbes qu'il emploie à propos de Dieu, ce sont peut-être justement les manières dont il nous élève. Comme il le disait au verset 6. Et c'est un Dieu de toute grâce, le texte dit. Un Dieu de toute grâce. Vous vous souvenez d'après verset 12, cette lettre est une lettre de grâce. C'est la véritable grâce de Dieu. Et c'est exactement ce dont on a besoin. On a besoin de la grâce pour tenir ferme. Ce n'est pas seulement la grâce de Dieu pour le salut, pour le moment de notre justification. Ce n'est pas que ça. C'est une grâce pour toute la vie. C'est une promesse qu'il nous donne. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Chaque épreuve, chaque souffrance a une date de préemption. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il fera ces choses. Ce peu de temps peut varier, c'est sûr. Parfois c'est très difficile, parfois ça dure longtemps. Mais comparé à l'éternité, ce n'est qu'un instant. Et qu'est-ce que Pierre fait en réponse à cette pensée, cette méditation sur la grâce de Dieu? Il éclate en doxologie, en adoration devant Dieu. Verset 11. « À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Selon les générations, et même selon l'endroit où vivent ceux qui écoutent, certains livres de la Bible touchent plus directement à ce que traverse notre société à un moment donné. N'est-ce pas? Et en Pierre, j'en suis convaincu, c'est incroyablement important pour nous aujourd'hui. En Pierre s'adresse à une situation qui n'est pas si différente que la nôtre. Une situation où les chrétiens étaient les gens de l'extérieur, ceux qui ne rentrent pas dans le moule, et bizarre parfois. Et l'exhortation de Pierre, c'est ne trouvez pas étrange de traverser la persécution et la souffrance. Ça, c'est ce qu'il a dit au chapitre 4, juste avant. Ne rendez pas coup pour coup. Ne vous plaignez pas. Ne râlez pas. Mais servez-vous-en comme une occasion de témoigner. Et ici, dans notre chapitre, l'exhortation, c'est l'humilité. L'humilité dans la conduite de l'Église. L'humilité dans le fait d'être membre d'une Église. L'humilité les uns envers les autres. L'humilité devant Dieu. En vous déchargeant tous vos soucis, toutes vos peurs, car lui-même prend soin de vous. C'est uniquement quand on s'habille d'humilité, comme ce texte dit, qu'on pourrait tenir ferme contre les ruses du diable. L'humilité, c'est difficile, mais c'est quelque chose qu'on voit en Jésus. C'est Jésus qui l'a modelé pour nous. Prions. Père Céleste, merci pour l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, et pour ce passage à la fin, chapitre 5. Merci pour la façon dans laquelle tu prends soin de nous. tu nous encourages, tu nous enseignes. Père, il y a un lien. Il y a un lien dans le monde qui nous attaque. Et il faut qu'on puisse ferme face au lion. Aide-nous à le faire. Aide-nous à être humbles dans cette église même. Merci pour Jésus, merci pour notre salut en lui, notre justification devant toi. Au nom de Jésus. Amen.